Nous allons maintenant passer à Christian qui va nous dire quelques mots sur ce qu'il a entendu et sur ce qu'il sait de ce domaine, vu que, comme je vous l'ai annoncé en ouverture, il doit malheureusement nous quitter un peu plus tôt que ce qu'il aurait souhaité initialement. Voilà.
Je vais intercaler quelques mots dans la série des débats de cet après-midi. Je vais le faire assez brièvement parce qu'au fond, je suis d'abord très en phase avec la plupart de ce que j'ai entendu autour de cette table, donc je ne vais pas y apporter beaucoup plus. Vous dire peut-être néanmoins d'abord que je suis heureux que ce débat ait lieu ici. Après tout, il pourrait avoir lieu dans n'importe quelle salle de Paris et qui en compte beaucoup. Mais comme j'ai toujours considéré qu'il y avait une extraordinaire difficulté à faire se rencontrer la techno-élite dont Tariq parlait tout à l'heure et la représentation nationale, je suis heureux, même si la représentation nationale n'est pas très nombreuse, que moi ça ait lieu ici. Je pense que symboliquement c'est important parce que entre la démocratie représentative telle qu'elle s'incarne ici et la cité numérique ou la société de l'information, dont je crois comme vous qu'elle est aujourd'hui à une phase de préhistoire, dans l'histoire de cette histoire, nous en sommes vraiment au début, la rencontre ne se fait pas facilement. Ou plus exactement, le débat public tel qu'on a pu l'entendre ou l'avoir dans ces murs, que ce soit dans l'hémicycle ou dans les lieux où on a essayé tant bien que mal de provoquer le débat, ça a été bien souvent un consensus assez mou. Je veux dire par là que soit on ne se posait pas les bonnes questions, soit on se posait au fond des questions sur lesquelles tout le monde était d'accord. Quand le débat dans les 3 ou 4 dernières années tournait essentiellement autour de la réduction de la fracture numérique, qu'on s'interrogeait dans nos programmes politiques pour savoir s'il fallait généraliser les hauts débits ou installer des ordinateurs dans les écoles, les collèges et les lycées. Ce ne sont pas des questions, bien sûr, innocentes ou indifférentes. Elles engagent beaucoup, mais pour autant, au fond, tout le monde était assez largement d'accord. Quand se posait la question de... Après, il reste à le faire, bien sûr, mais dans les intentions, au moins, il n'y avait pas vraiment un grand débat public. Sur un certain nombre d'autres sujets, bien sûr, quand il s'agissait de la répression des contenus illicites sur l'Internet, des sites pédophiles ou néo-nazis, voire d'une question toujours pas vraiment traitée de la responsabilité des intermédiaires techniques, bon, là, ça commençait à frictionner un peu plus. Mais enfin, le débat n'engageait pas forcément, au moins en apparence, des visions du monde qui s'opposaient réellement. Et donc, je crois, et donc je suis très heureux qu'on en vienne aujourd'hui à travers un certain nombre des grands débats qui sont posés, portés aussi par l'élaboration de la norme européenne. Je suis heureux qu'on en vienne peut-être aujourd'hui à des questions qui font débat et qui font sans doute clivage, même si ce ne sont pas forcément les clivages les plus traditionnels qui sont opérants. Si nous avons voulu, avec la Fondation Les Temps Nouveaux, avec Temps Réel et avec d'autres initiatives que vous représentez, faire porter ce débat sur les biens communs informationnels, pas seulement, bien sûr, autour de la question des droits d'auteur et des fichiers musicaux, même si c'en est, au fond, une question emblématique. Il y en a beaucoup d'autres qui concernent pas seulement l'Internet, mais qui concernent la génétique. On a parlé des médicaments tout à l'heure. On aurait pu parler des questions de semences agricoles qui sont aussi un débat nord-sud tout à fait essentiel. On est là autour de questions qui, enfin, mettent en jeu des intérêts très forts, des intérêts économiques, bien sûr, des enjeux culturels et politique essentielle, et peut-être pour la première fois, on va voir enfin se dessiner des lignes de partage, des lignes de clivage, et donc on va tous enfin peut-être faire sur ces questions sérieusement de la politique, chacun dans son rôle de citoyen, de militant, d'élu, etc. Je crois important, et c'est un peu ce qu'on veut faire avec avec la Fondation, les temps nouveaux, sur cette question-là, je crois important qu'on puisse arriver au fond à construire une grille de lecture un peu plus affûtée sur les enjeux politiques de la société de l'information. On a commencé à le faire à quelques-uns depuis plusieurs années, mais au fond, on a le sentiment encore que c'est assez inachevé. Et avec le groupe de travail qui est en train de se créer, c'est un peu ce qu'on voudrait faire. La conviction maintenant s'est installée, me semble-t-il. C'était pas forcément le cas il y a 4 ou 5 ans. Au fond, toutes les grandes questions qui organisent le débat public depuis un siècle, on doit aujourd'hui se les reposer dans l'émergence de la société de l'information. Le débat ou les rapports entre le marché et l'État, entre les biens publics et les biens privés, la question de la propriété, qui sont au fond des questions essentielles de débat entre les socialistes et les libéraux depuis un siècle, aujourd'hui, ce sont ces questions-là qui vont à nouveau se reposer, et vous n'avez cessé au fond de les aborder depuis 2 heures, dans la société de l'information. Alors on ne se les reposera pas forcément avec le même vocabulaire, on ne se les reposera pas forcément en mettant en jeu les mêmes intérêts, mais au fond, c'est ces questions-là qui sont posées. Les formes modernes de l'égalité sont aussi parmi ces questions, et la question de l'égalité d'accès au savoir au pluriel, et puis l'organisation de nos institutions démocratiques. À l'échelle de l'État-nation, qui reste encore quand même la forme dans laquelle on se débat chaque jour quand on fait de la politique, et puis à l'échelle européenne, de plus en plus, parce que le droit, on le voit bien avec la charrette de directive qui arrive ou qui sont en préparation, pardon monsieur le directeur, la directive sur les droits d'auteur, la directive sur le piratage ou d'autres qui sont en chantier ou à venir, on voit bien que là, à la fois la question de la régulation de la société de l'information, mais surtout la question de savoir comment et où on met de la démocratie dans la société de l'information, donc la question de la démocratie, elle se repose avec encore plus d'acuité, et notamment quand il s'agit de, comme on tente plus ou moins de le faire dans cette maison, de faire la loi, ou au moins d'y contribuer modestement. Alors le problème pour beaucoup d'entre nous, en tout cas les peut-être les plus engagés d'entre nous, c'est de savoir comment on organise cette confrontation entre la représentation nationale, les responsables politiques, qui s'intéressent à ces questions assez lentement au total et plutôt sous la pression de l'opinion que de leur propre initiative. Et puis un continent scientifique, technologique qu'un certain nombre d'entre vous représentez, mais qui reste quand même terrain incognita pour 99% des Français, en tout cas pour beaucoup. Et cette confrontation n'est pas simple à organiser. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que nous y soyons véritablement parvenus jusqu'à présent. Et donc, au fond, le débat de cet après-midi n'est que une très modeste contribution parmi d'autres. Il y a des cloisonnements jusqu'ici assez infranchissables. Il y a à la fois une avant-garde, comme dans chaque moment où l'histoire s'accélère un peu. Et puis, il y a, au fond, malgré l'appropriation des usages, pas de tous d'ailleurs, parce que ce que disait Tariq tout à l'heure sur les transferts de fichiers musicaux, je suis pas sûr qu'on puisse l'appliquer à tous les usages. C'est-à-dire la rapidité de la courbe, on la retrouve pas dans tous les usages de l'internet ou d'autres éléments. On le retrouve peut-être dans la téléphonie mobile, c'est vrai, mais pas forcément dans tous les domaines. Et donc il y a encore très souvent, je vous apprends rien là, dans la même famille, un gamin de 12 ans effectivement qui est aujourd'hui en situation de quasi-délinquance pénale, parce qu'il fait au fond ce qu'on encourage tous à faire. Vous avez la génération du dessus qui fait du traitement de texte et la génération encore d'avant qui a déjà beaucoup de difficultés avec sa télécommande de télévision. Donc la France d'aujourd'hui, elle est parcourue de cette diversité-là, et bon, il faut qu'on le sache quand on s'engage aussi dans le débat politique sur ces questions, comment faire pour y mouiller, y impliquer le plus en plus d'acteurs et de citoyens. Donc ce travail-là, on va avoir beaucoup d'occasions de le faire, et je l'espère, de le poursuivre, ou de le faire ensemble, parce qu'on a quelques chantiers qui sont, c'est vrai, vous les avez rappelés, autant de menaces. La directive sur les droits d'auteur, bien sûr, et je suis d'accord pour dire que la question de la copie privée n'est que peut-être le petit bout de la lorgnette. Bon, même si c'est pas inutile aussi de se servir du petit bout de la lorgnette, peut-être pour tirer la pelote. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait solidaire de la proposition de loi qui a été déposée sur les questions de copie privée au regard de ce que l'industrie du disque est en train de faire, mais je suis d'accord que il faut derrière effectivement faire monter la sauce et poser, comme vous le faites là cet après-midi, tous les enjeux du débat. La directive de lutte contre le piratage, bon, relève un peu du même débat. Bon, sur le brevetage du logiciel, le Parlement européen a mis un grain de sable dans la machine, comme on dirait à TAC. Ça veut dire que là aussi il y a des gens qui se lèvent pour agir et pour essayer de comprendre. Je lisais encore l'autre jour un interview très touchant de Michel Rocard, président de la commission la culture au Parlement européen, avec lequel je ne suis pas en accord sur tout quand nous débattons, mais je trouvais très très intéressant que comme il le disait dans un interview, qu'il ait pris des mois pour essayer de comprendre comment fonctionnait cette offensive pour le brevet du logiciel, et que avec d'autres de sensibilités variées, il s'est dit on va quand même essayer de poser des butoirs. Bon, ont-ils réussi? Bon, chacun a un point de vue là-dessus, mais enfin bon, il y a quand même de la résistance. Alors il nous faut à la fois, comme toujours dans ces moments-là, à la fois une capacité de résistance et une capacité de proposition. C'est ce qu'il faut qu'on fasse, en tout cas aussi là où on fait de la politique, dans nos partis, à l'Assemblée nationale, au Sénat, pourquoi pas, qui, sur ces sujets parfois moins archaïques paradoxalement, que, en tout cas, des gens aussi se sont emparés de ces sujets. Donc on ne va pas manquer d'occasion de faire un certain nombre d'opérations commando quand les débats législatifs vont venir. Et moi je suis très preneur, parce que je crois là aussi qu'il ne faut pas fonctionner en vase clos et personne n'est propriétaire de ces sujets. Je crois très important qu'on puisse, notamment quand la directive sur les droits d'auteur viendra, qu'on puisse avoir vraiment des task forces bien étoffées qui puissent quasiment en temps réel, sur ces sujets-là, réagir, se battre, comme ça a été fait à d'autres moments sur d'autres textes. Mais là, encore une fois, on va être sur des sujets où il va y avoir, dans le débat public, des acteurs beaucoup plus structurés et puissants que ne l'étaient les fournisseurs d'accès. Donc, c'est vrai que tous les colloques auxquels, aujourd'hui, si on veut aller passer 3 jours gratuits à Cabourg, on sait quel camp il faut. Il faut choisir, quoi. C'est assez. Tout ça est quand même très très organisé. Il y a un lobbying extrêmement puissant. Donc, je crois important qu'on soit un certain nombre de parlementaires, et là aussi, pas forcément strictement sur les clivages habituels, pour mener ces batailles. 3 réflexions rapidement sur le fond du débat. Ce que je retiens de ce qui se dit cet après-midi, mais aussi depuis des mois sur les biens publics informationnels, me conduit à penser que on a un vrai travail d'invention politique à faire sur cette question. Non pas que la question de l'appropriation collective soit une question neuve pour les socialistes, elle est même aussi vieille que l'élaboration des doctrines au XIXe siècle, mais c'est vrai que là, on a aujourd'hui, dans cet environnement extrêmement mouvant, que sont les biens et les services immatériels, on a un enjeu particulier là, on a une question nouvelle qui est au nom de l'intérêt général, au nom de ce que nous considérons comme étant un peu notre devoir collectif, comment on trace la ligne de partage entre ce qui relève de l'espace marchand et ce qui relève de biens publics ou de biens communs, avec bien sûr une contrainte forte qui est liée à l'évolution technologique, mais comme vous le disiez tout à l'heure, si ce n'est pas le débat public, l'intérêt général et la prise de position politique qui trace la ligne de partage, ce sont des choix technologiques ou ce sont des forces économiques qui le feront à notre place. C'est pas, on ne va pas cette ligne la tracer cet après-midi, mais il est clair que c'est, me semble-t-il, une obligation politique très forte à laquelle il nous faut répondre. On a essayé à quelques-uns, Ludovic, Godefroy et d'autres, il y a quelques mois, de commencer à porter un peu ce débat dans le champ politique, en disant deux choses très simples au fond. Il faut d'abord protéger les biens communs existants. Et donc le débat sur le brevet ou la non-brevetabilité du logiciel et plus largement aussi dans d'autres domaines, la brevetabilité du vivant sont des questions politiques essentielles. Comment donner également dans un autre registre plus de contenu à la liberté constitutionnelle de communication, pas seulement pour les médias, ce qui est un vrai sujet, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un enjeu de... là aussi de liberté d'expression et de régulation sur lequel on n'a pas fini de trancher, et notamment quand il s'agit des médias, de savoir de quelle façon sur l'Internet les régulateurs se déploient ou ne se déploient pas de la même manière que dans le paysage audiovisuel classique. Mais quand il s'agit là des individus, et chacun a entendu tout à l'heure ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est bien la liberté de communication, qui est une liberté fondamentale, en tout cas telle que nous voulons la défendre dans l'espace national, qui est menacée, qui est mise en jeu chaque fois qu'on imagine ou qu'on menace d'envoyer devant un tribunal un gamin de 10 ans parce qu'il a échangé de façon un peu organisée avec ses camarades de collège quelques fichiers. Donc nous avons un enjeu en effet de protection, de défense, de résistance, peut-être de résistance organisée d'ailleurs, si il venait à l'esprit, et on me dit que la menace a été brandie, à tel ou tel d'amener des adolescents devant les tribunaux pour faire l'exemple. Hein. Alors on ne dit pas qu'on va leur couper la main qui sert à manipuler la souris, mais au fond, quelque part, c'est l'idée qui est brandie. Donc là, je crois qu'il faudra, si on allait en France jusque-là, comme c'est le cas aux États-Unis, il faudrait sans doute que, de façon collective et pas seulement symbolique, on s'organise. Deuxième idée, je terminerai par celle-là, il nous faut susciter aussi la création de nouveaux biens communs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, et peut-être plus qu'un Internet de service public, c'est un service public des contenus. Qu'il faut défendre. Donc il faut défendre l'idée. Et là aussi, ça pourrait être l'objet de textes, de tribunes, peut-être de propositions de loi, et si certains d'entre vous sont disponibles pour y travailler, moi je le suis également. Qu'est-ce qu'on imaginait de mettre derrière cette idée de service public de contenu ? Ça commençait par, je ne sais plus, Godefroy ou d'autres qui l'avaient proposé, ça commençait tout simplement par le service public de l'identité. Son adresse, sa signature, son authentification, est-ce que ce sont des sujets dont on considère qu'ils doivent être entièrement absorbés par l'espace marchand, ou est-ce qu'il y a place là pour un service public? Quand on parle d'accès aux droits, là aussi, comment garantir la gratuité de l'accès au droit? Comment faire en sorte qu'un certain nombre de bases de données juridiques, il en existe, mais comment les préserver, comment les faire fructifier, comment faire en sorte que le service public d'accès au droit soit gratuit et égal pour tous? Comment développer la mise en ligne du patrimoine culturel commun? Bon, ça serait là aussi des sujets de colloque à soi tout seul, donc je ne veux pas aller plus loin, je veux simplement poser quelques idées qui me paraissent pouvoir faire partie de ce service public des contenus. Là aussi, il y a une bataille formidable contre la marchandisation de la sphère culturelle, et il est grand temps, là aussi, que l'on s'en préoccupe, pas seulement avec des initiatives isolées de telle ou telle institution, mais peut-être avec une politique publique réellement consciente des enjeux qui sont posés. La question de la visibilité publique des créateurs également, après tout, pendant des décennies, on a tenté tant bien que mal, avec les politiques culturelles de l'État ou des collectivités, de permettre à des créateurs de s'exprimer. Est-ce que la cité numérique, au fond, serait en retrait sur ces politiques qui aujourd'hui sont dans la cité traditionnelle à peu près acceptée. Voilà quelques réflexions. Moi, j'ai bien aimé cet été un article de Philippe Hérin qui s'appelait, je crois, pour une coalition des biens communs. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, bien très très simplement, à l'occasion de cette rencontre, nous lancions ensemble cette coalition des biens communs. Merci.
Une question de madame.
Ah, ça bouge pas. Oui, mais je préfère regarder là-bas. C'est... Christine Tréguier, je suis journaliste. Concernant votre fondation, j'avais une ou deux petites questions. La première, c'est de savoir si vous vous situez simplement au niveau national ou si vous vous situez à un niveau européen, dans la mesure où je pense que le national aujourd'hui ne fait plus qu'implémenter les directives et les régulations internationales, et que donc si on veut véritablement agir, entre autres sur les sujets de propriété intellectuelle, c'est plutôt sur l'Europe qu'il faut faire levier. La deuxième, c'était, je l'ai oublié, voilà, ça va peut-être revenir.
Je réponds à la première et
ça va. J'avais juste un commentaire sur, vous me parlez de service public d'identité, alors là je ne comprends plus du tout, parce que ça n'a rien à voir avec le bien commun, l'identité est un bien absolument personnel, et moins il est rendu... public, commun, mis en fichier, etc., mieux elle est protégée et les libertés qui vont avec. Donc je ne comprends pas votre idée de service, mais ça c'est un détail.
Sur le premier point, deux choses. Bon, la première, la fondation Les Temps Nouveaux, Ludovic l'a peut-être exprimé tout à l'heure, et le lieu qu'on souhaitait créer un certain nombre de militants, de responsables du Parti Socialiste, soucieux à la fois de s'ouvrir très largement à d'autres courants de la gauche, et soucieux peut-être au moins autant de transgresser au fond les limites de cette bulle endogamique dans laquelle aujourd'hui le débat public se conserve et se reproduit. Cette fondation a parmi ses centres d'intérêt et même ses terrains d'action les plus immédiats, la question européenne. Pas seulement d'ailleurs à travers les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, mais la passerelle se fera vite, tout simplement parce que nous considérons que la question européenne est une question politique essentielle, que nous sommes parmi ceux qui ont initié cette fondation nombreux à nous battre pour une République européenne, et parce que nous considérons que l'espace public européen doit être celui dans lequel une part importante de notre engagement doit se déployer. Et à ce titre, nous aurons fin janvier ou début février, dans une autre, pas très loin, un colloque européen où viendront un certain nombre de représentants des gauches européennes. Il est encore plus manifeste dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui qu'on ne peut pas travailler exclusivement à l'échelle nationale. Même s'il ne faut pas non plus l'oublier, la dévaluer ou d'une certaine façon la mépriser. Je crois qu'il faut se battre tout simplement à ces deux niveaux et puis à un troisième que personne n'oublie qui est l'échelle mondiale parce que les sujets qu'on évoque là trouvent leur place bien sûr dans les discussions de l'Organisation mondiale du commerce ou d'autres instances. Donc je crois qu'aujourd'hui l'idée que plus personne ne peut se cantonner dans l'espace national, cette idée elle est totalement appropriée. Bon, en même temps, les institutions l'organisation démocratique et le lieu du débat n'est pas seulement dicté par tel ou tel sujet dont nous savons qu'il est important. On a aussi affaire avec les institutions telles qu'elles sont, et simplement ce qu'il faut éviter, c'est vrai qu'on a peut-être eu en France, y compris à gauche, un certain retard à l'allumage, il faut simplement pas se cantonner dans le débat public national, et au contraire avoir tissé des liens, tissé des alliances, construire des projets avec d'autres. C'est pas un exercice facile pour... titre anecdotique, je suis allé récemment à Berlin il y a 8 ou 10 jours pour faire un peu le point sur après le congrès du SPD sur la situation de la gauche allemande et pour voir au fond comment se dessinaient au sein du SPD les différents courants. On voit bien que l'espace national continue quand même, pour beaucoup de questions qui agitent les partis politiques, à rester l'échelon de référence. Même si nous savons, vous et moi, qu'il faut porter le débat plus loin, et que dans chaque pays, il y a quelques dizaines de responsables politiques, parce qu'ils sont parlementaires européens, ou parce qu'ils ont une expérience internationale, qui se mobilisent de façon quotidienne dans ce débat transnational. Mais c'est encore, au fond, un comportement qui n'est pas majoritaire dans la... Je parle jamais de la classe politique, mais enfin dans les gens qui sont les élus de la représentation de ce pays. Sur le deuxième sujet, peut-être que d'autres souhaiteront intervenir là-dessus, peut-être Godefroy au fond, parce que je crois que l'idée était de service public, ou Maurice, je ne sais plus qui a la paternité de ce type d'apport. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la marchandisation de l'identité, elle est en route. À travers la signature électronique, à travers le commerce des noms de domaine, à travers la façon dont chacun vit et existe dans l'espace numérique. Et donc, même si j'entends bien tout ce que vous dites ou tout ce que vous pourriez dire sur la protection des libertés individuelles, et je pense en partager beaucoup sur ce terrain-là, il est clair que on a deux problèmes là. Est-ce que ces questions font l'objet au fond d'une marchandisation total, et deuxièmement, comment on s'organise pour protéger les libertés individuelles. C'est pas déconnecté, mais peut-être que ce sont au fond deux. Il y a peut-être différents types de réponses en tout cas.
Monsieur ?
Oui. Ah, oui, ma deuxième question.
Ah, vous avez trouvé la
deuxième question, c'était est-ce que la Fondation a déjà une idée de la tactique d'approche pour mettre en place quelque chose qui s'appellerait les biens communs informationnels? Et est-ce que cette tactique serait plus proche de quelque chose qui serait similaire à la Convention sur la biodiversité, puisque ça a été le cas pour la protection des biens végétaux du vivant en général? Donc est-ce que c'est l'approche convention sur la biodiversité, ou est-ce que c'est l'approche remise à plat, on va dire, radicale des régimes de propriété intellectuelle?
Moi, je dirais justement, comme je suis l'un des deux initiateurs de ce groupe avec Godefroy, j'ai voulu poser le moins de préconditions possibles à nos travaux. J'ai voulu pour l'instant surtout poser les problèmes le plus largement possible et inviter chacun à y participer. Je dirais, moi, dans mon esprit, ça serait plutôt celui de la convention, mais je pense que je souhaite plutôt laisser ce choix-là à tous ceux qui viendront travailler avec nous pour savoir quelle forme exactement ils souhaitent donner à leur action, sachant que l'objectif est d'avoir dégagé, je dirais, un certain consensus sur ces questions dans les 6 mois à 1 an, et d'être ensuite capable d'élaborer des briques programmatiques qui soient plus précises.
Une autre question, monsieur?
Oui, je, Alors, pour faire longtemps, Maurice, d'ailleurs, connaît bien le problème des bases de données. Parce que le problème, j'insiste sur le fait qu'effectivement, les personnes qui ont mis glissé là à l'affaire des identités est très importante. Parce qu'en fait, effectivement, la constitution de base d'information, le service consistant à authentifier les gens, les signatures, ça finit par construire des bases qui sont elles-mêmes. Elles peuvent être un jour considérées comme des propriétés d'un certain nombre d'acteurs. VeriSign, Microsoft, etc. Je travaille en ce moment dans la santé où on va constituer des hébergeurs de données médicales et on a besoin de savoir d'identité. On ne sait pas, il va y avoir un débat politique et public et politique pour savoir qui peut concrètement gérer des bases d'identité. Qui sont, alors, que la CNIL s'en occupe, évidemment, et fort bien, mais de toute façon, il y a un problème très important sur la constitution de ces bases qui vont devenir d'énormes outils au cours des années qui viennent. Donc ça, c'est le premier point. Alors, un point très important également, c'est que c'est lié effectivement au commerce d'un autre domaine et à tout ce qui peut se faire, et on n'est pas au clair, y compris techniquement, sur ce que peuvent faire des choses comme IPv6, etc., sur, c'est pas très clair. Il faudrait vraiment approfondir, énormément cela. Alors je profite que j'ai le micro pour poser une autre question, celle-là, qui est que, en dehors de. Qui devrait aussi s'occuper. Enfin, aller voir quelque chose, quelquefois, de choses simples, d'abord, dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et ça aussi, je crois que Maurice connaît bien, puisqu'on est intervenu là-dessus ensemble, sur les problèmes des données administratives, données publiques. Parce qu'il faut bien admettre, et le débat, rappelez-vous le débat sur les données juridiques quand le journal officiel a été mis en ligne, il faut bien admettre que les choses ne sont pas claires. Je suis quelqu'un d'assez désagréable, moi. Il n'y avait pas de clivage politique particulièrement clair de ce point de vue. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de philosophie politique affirmée, et chez les socialistes, entre autres, pour savoir exactement, et c'est pas simple. Les principes. Les uns, disant qu'il faut au contraire que tout ce qui est public soit gratuit. Ça peut être payant, mais non marchand, c'est pas non plus pareil. Payant et marchand n'est pas forcément pareil. Et puis marchand, payant, avec livré à des concurrences, donc au marché. Bon, là, honnêtement, les choses n'ont pas été peut-être suffisamment réfléchies. Elles sont pas faciles, hein. Mais il y a eu quand même des ambiguïtés dans toute la sphère administrative. Ayant travaillé dans la mission Lorenz, par exemple, sur ce sujet, c'est aperçu qu'effectivement, les administrations et un certain nombre de gens étaient partagés entre eux de vendre leurs informations, et que vraiment, il n'était pas facile d'avoir un débat autre qu'à très court terme. Donc là-dessus, c'est vraiment une question, le problème devra être tranché, et c'est très long.
Oui, enfin, je crois que c'est ce témoignage est une invitation à travailler, quoi. Hein.
J'ai une petite question à vous poser. Il me semble que vous ne vous êtes pas présenté.
Norbert Paquet, j'ai une petite société de conseil. Je suis au groupement des fournisseurs d'informations justement dans ce groupe-là. Je suis délégué de l'association EDI Santé, enfin, quelques autres activités.
Merci.
Oui, puisque, bien que je ne sois pas du tout membre de la Fondation Temps Nouveau, mais puisque Christian Paul a eu la gentillesse de faire référence à ma proposition de coalition pour les biens communs, je crois qu'il y a un élément qui peut non pas résoudre les problèmes très difficiles auxquels les différentes questions ont fait référence, mais fournir une base de départ pour la réflexion, c'est un petit changement qui est le passage d'une vision binaire à une vision ternaire des acteurs qui sont en jeu. Parce que dans l'affrontement socialiste et libéraux, nous sommes habitués à considérer une vision binaire, État et marché. Or, ce qui se passe avec l'émergence des techniques de l'information, c'est que nous avons trois formes de production sociale de services ou de biens ou de l'environnement dans lequel nous vivons. Les deux qui existaient déjà, et puis une qui existait aussi, mais souterrainement à peine visible, qui est ce que Jochen Benkler appelle la production coopérative par les pairs de biens communs informationnels, hein, c'est-à-dire la coopération médiée par des régimes de partage et par des instruments techniques entre des individus distribués. Et Pourquoi il est important de considérer ces trois termes ? Ce n'est pas pour les opposer forcément les uns aux autres, mais c'est parce que selon les sujets, vous allez avoir des coalitions différentes qui vont s'installer entre ces trois parties. Si vous prenez même un sujet aussi simple que, bien que très difficile à gérer, que la protection des données personnelles, vous voyez bien qu'il y a des sujets, vous prenez la directive dite sur la protection des données, dans lequel le Conseil européen a installé un amendement qui institue la rétention universelle des données, qui a fait l'objet d'un débat féroce au Parlement européen. La coalition qui s'opposait à cet amendement n'a rien à voir, qui s'oppose à celle qui, par exemple, a rejeté la brevetabilité des logiciels. Hein. Dans un cas, on avait une coalition qui relevait plutôt des acteurs sociétaux et de certains acteurs de marché contre une certaine forme de sécuritarisation de l'État. Dans l'autre cas, on avait une alliance des acteurs publics et des acteurs sociétaux contre l'abus de la marchandisation. Et je crois qu'il faut, c'était en tout cas un message très important de mon texte, c'est à chaque problème, l'invention de sa micro-coalition, mais sans perdre de vue les valeurs qui soutiennent. Et ça laisse intact le problème de la représentation politique, parce qu'on ne se fait pas élire sur un problème, hein, on se fait élire sur l'ensemble. Et donc le couplage entre le problème de la représentation politique et de comment est-on majoritaire et ces problèmes de coalition thématique est, je crois, un grand enjeu de nos démocraties.
Très bien, merci. Une dernière question.
Une dernière question, je dirais, brièvement posée, mais elle est extrêmement importante à mon avis. Christian Paul l'a effleuré, mais je pense que c'est un sujet encore un peu tabou, mais il va falloir y aller. C'est que la question qui est posée par la société de l'information, on l'a un peu dit, et Philippe Ingrin le dit aussi à l'instant, c'est que ça repose quand même fondamentalement les clivages, pour parler simple, gauche-droite traditionnelle. Et que les questions sur les données privées, sur le bien public, etc., dépassent les questions politiques telles qu'on les a posées jusqu'à maintenant. À savoir effectivement État, public, marché, marchand, non-marchand, etc. Les questions qui sont posées par la société de l'information font exploser ces clivages-là. Et je pense qu'il va falloir arriver effectivement sur des nouveaux clivages, des nouvelles positions politiques qui reposent complètement la notion traditionnelle gauche-droite. Je dirais que la notion gauche-droite pour moi aujourd'hui c'est une vision un peu passée, ce qui ne veut pas dire que les traditionnels, je dis bien traditionnels, c'est-à-dire reposant sur des oppositions économiques telles qu'on a pu les élaborer depuis le 19e siècle, et que ça ne veut pas dire que reposer des nouveaux clivages, c'est tracer des voies qui sont en dehors de tout ce qu'on a pu penser aujourd'hui. Voilà ce que je pense.
C'est une thèse en tout cas qui est pas, enfin bon, que j'entends aussi depuis quelques années. Je crois que je suis pas spontanément d'accord avec ça. Tout en étant comme beaucoup d'autres en recherche et en réflexion là-dessus. Je crois qu'il est aussi excessif de dire que l'irruption ou l'émergence, la construction de la société de l'information, de la cité numérique, chacun a son vocabulaire pour dire ça, dire que ça fait complètement exploser les clivages traditionnels, ça me paraît aussi excessif que de dire que ça ne les touche pas du tout. Parce qu'il y a aussi les tenants de cette thèse-là, hein, qui considèrent qu'au fond, bon, on a une couche technologique qui s'installe. On a eu ce débat avec Dominique Volton très souvent, qui est protagoniste intéressant, même si là aussi on est d'accord sur un bout et pas sur tout. Bon, mais en même temps. Je pense qu'on n'a pas encore fait le travail de construction politique qui permet de vous donner tort ou raison. Pourquoi ? Parce que pendant quelques années, en effet, je le disais tout à l'heure, au fond, ces sujets nouveaux ont été effectivement examinés comme des questions qui venaient au fil de l'eau. Donc on a pris la responsabilité des hébergeurs, la fracture numérique, la question des données personnelles, enfin au fur et à mesure que les problèmes arrivaient. Bon, et il n'y avait pas de véritable lecture politique de ces questions, sauf quelques esprits pionniers, dont certains sont dans la salle, on ne va pas tous les saluer à tour de rôle, mais bon, on sait ce qu'on doit et à qui. Bon, le problème aujourd'hui, c'est que, on arrive sur les vrais enjeux. Hein, et c'est là l'épreuve de vérité. Et la question des droits d'auteur, la question de la propriété intellectuelle, la question du rôle respectif des forces du marché, comme on dit, et puis de l'intervention publique, ces questions-là, elles vont se reposer. L'application du principe d'égalité dans la société de l'information, ça va être aussi des sujets intéressants, qui vont mettre en cause des visions du monde. Alors, est-ce que ça va les bousculer complètement? Je ne sais pas. Ce dont je suis en revanche totalement convaincu, c'est que, par exemple, sur une question où on pensait que les choses allaient aller très vite, qui est la question des usages démocratiques de l'Internet, je ne suis pas sûr qu'on ait eu une véritable révolution. Et là, de ce point de vue, il y a des réticences et des conservatismes dans toutes les forces politiques. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que dans toutes les forces politiques des gens qui ont compris qu'il y avait là un enjeu politique essentiel. Et puis il y a dans toutes les forces politiques des gens qui sont plus résistants, plus réticents. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que un certain nombre de repères construits autour de valeurs qui sont l'égalité et la démocratie essentiellement, je ne suis pas sûr que ces repères politiques-là qui organisent de façon binaire ou multipolaire la scène politique française depuis un siècle, je ne suis pas sûr que ces valeurs-là, elles ne vont pas à nouveau créer quelques lignes de partage. Bon, mais à suivre.
Très bien, bien. Merci Christian. Oui, maintenant tu...
Désolé pour cet intervenant qui suit. Enfin, désolé, c'est moi qui...